Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais...
Ah bah non, ça, justement, je me souviens pas de ça.
Je me souviens surtout d'odeurs.
De sensations, plus que d'anecdotes précises.
Essayez de penser avec votre tête.
Vous écoutez le Bistrot Mémoire Rennais sonore.
Nous accueillons aujourd'hui Alban Burgos, diététicien et nutritionniste sur Rennes.
Donc malgré qu'il n'ait pas encore trouvé de régime miracle pour trouver la mémoire, pour guérir ces pathologies-là, il y a quand même des pistes pour nous aider à améliorer ce qu'on appelle l'état nutritionnel des gens. D'accord ? En mangeant certaines choses qui vont faciliter les reconstructions au niveau des neurones, qui vont permettre de protéger les synapses. Donc, tous les petits éléments au niveau du cerveau, la moelle épinière, qui permettent la transmission des signaux nerveux. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler du régime méditerranéen. L'alimentation santé, principalement, va se baser sur quelque chose qui va ressembler énormément au régime méditerranéen. Donc ça, c'est pour la partie spécifique, on va dire, maladie neuroévolutive. Mais pour la vie de tous les jours, mais là, quand même... Les gens qui ne sont pas atteints, il y a quand même des règles pour bien manger. Pour vous, c'est quoi bien manger? Quelqu'un a une idée?
Avoir du plaisir.
Avoir du plaisir. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. D'accord? Il y a plein de règles, mais il faut savoir qu'en alimentation, alors, sauf certaines maladies vraiment spécifiques, il n'y a aucun interdit. D'accord? Donc il faut bien avoir ça en tête. Souvent, on entend, faut pas manger ça, c'est trop gras, faut pas manger ça, c'est trop sucré. Bon. Il faut faire attention à certaines choses, on est d'accord, on va en parler. Mais il n'y a pas d'interdit. Donc il y a des choses qu'on peut considérer un petit peu moins bénéfiques et qu'il faudra consommer en plus petite quantité ou en plus petite fréquence, encore moins souvent. Donc bien manger, c'est du plaisir. C'est vous apporter tout ce dont votre corps a besoin pour votre activité quotidienne, pour votre activité physique, pour vous protéger des maladies extérieures, des attaques de virus, des bactéries, etc. Pour vous reconstruire quand vous avez un petit bobo. Donc c'est apporter au travers de votre assiette tout ce qui est utile à l'organisme pour se régénérer et pour fonctionner. Et donc pour ça, c'est important d'apporter de la variété dans son assiette. On ne peut pas se contenter de manger qu'un seul type de plat, on ne peut pas manger que des légumes par exemple. Souvent, moi j'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent « Regardez, je mangeais de la salade, c'est équilibré. » Je dis « Bah non, il manque des choses, on ne peut pas manger que des légumes, on ne peut pas manger que de la viande, on ne peut pas manger que des féculents. Il faut manger de tout. » Un repas équilibré, qu'est-ce que c'est? C'est 5 éléments. Donc, pour tenir cette petite règle-là, la règle des 5, et dans votre repas, c'est idéal d'avoir ces 5 éléments-là. C'est un végétal cru, que ce soit en entrée, par exemple, quand on prend des carottes râpées, ou en dessert, quand on prend un fruit, ou dans un accompagnement, quand on mange une salade, par exemple. Ça va vous apporter des fibres, des vitamines, des minéraux. Tous ces éléments-là, fibres, vitamines, minéraux, ils ont un rôle à jouer dans votre organisme. Les fibres, elles vont vous remplir le ventre, elles vont vous donner la sensation d'avoir bien mangé, elles vont vous tenir jusqu'au prochain repas en évitant d'avoir faim et d'avoir envie de grignoter, d'aller manger un petit peu de sucre, etc. Ça va être aussi protecteur au niveau cardiovasculaire, c'est-à-dire que ça va permettre, entre guillemets, de nettoyer un petit peu au niveau du tube digestif, de capter des mauvaises graisses pour éviter qu'elles viennent encrasser un petit peu tout l'organisme. Les vitamines, vous savez, elles aident au fonctionnement de votre corps, etc. Donc le premier élément, c'est un végétal cru. Ensuite, ce qu'il vous faut... C'est ce qu'on appelle une portion de protéines de qualité. Je m'arrête 2 minutes sur les protéines. Les protéines, on associe souvent ça à la viande. Donc c'est viande, poisson, œufs, les abats, etc. Mais c'est pas que ça, quoi. On trouve des protéines de qualité dans les produits laitiers, comme le fromage, comme les yaourts. Et on retrouve aussi des protéines de qualité dans le monde végétal. C'est de plus en plus à la mode, les protéines végétales. Quand on mange du soja, quand on mange du quinoa, quand on associe des légumineuses avec... des céréales, par exemple, quand vous faites du riz avec des lentilles, vous mangez des protéines de qualité. Donc ça, c'est le deuxième élément, les protéines. Troisième élément, c'est les glucides. Les glucides, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, sous forme de sucre. On va les retrouver dans la famille des céréales, principalement. Tout ce qui est le riz, les pâtes, le blé, la semoule, le pain. Ça, c'est votre base énergétique. C'est très important d'en avoir à chaque repas. Souvent, on entend, le soir, faut pas manger de pâtes, faut pas manger de féculents, ça fait grossir. Non, il vous en faut, c'est ça qui vous donne votre énergie. Quatrième élément, c'est des légumes cuits, ou des fruits cuits. Les fruits cuits, c'est les compotes, par exemple. Donc quand vous mangez des légumes cuits, vous amenez encore des fibres à votre organisme, qui sont plus facilement digérées parce qu'elles sont déjà pré-cuites, donc pré-digérées. Donc ça vous fait du bien également. Et le dernier élément, c'est un produit laitier. Yaourt ou fromage, on essaye d'alterner un repas le fromage, un repas le yaourt. Donc ça, c'est la base des 5. Et donc ce qui est important, c'est d'essayer, vous, d'être acteur de votre assiette et de vous dire, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Est-ce que j'ai mes 5 éléments? Ah ben non, j'ai pas envie de me faire cuire un steak ce soir, j'ai pas le temps, j'en ai plus. Très bien, c'est pas un problème. Comment je peux faire pour l'avoir? Peut-être que je vais aller ouvrir une petite boîte de sardines pour manger ça en entrée. Donc toujours penser à... Est-ce que j'ai ma composante? Comment je fais pour l'avoir? J'ai pas de féculent parce que je me suis fait un gratin de légumes, par exemple. Il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de pommes de terre. Comment je fais pour avoir mon féculent? Bah, peut-être que je vais prendre un morceau de pain en plus. Peut-être que je vais prendre du taboulé en entrée. Peut-être que je vais me faire plaisir avec du riz au lait. On n'est pas forcément dans le schéma classique entrée plat dessert, hein, mais il faut vraiment penser aux 5 éléments et on les met quand on veut dans le repas. Donc ça, c'est de manière globale pour bien manger. Donc ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, quand on est dans la problématique de la maladie évolutive, on va se rapprocher de ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Il faut se diriger vers tout ce qui est orienté soleil. Donc c'est-à-dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des bonnes huiles, des matières grasses, etc. Premier point, vous savez, au bord de la Méditerranée, ils utilisent beaucoup l'huile d'olive. On recommande l'huile d'olive, mais surtout en remplacement du beurre. Il y a un peu de vitamine dans l'huile, il y a un petit peu de vitamine dans le beurre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de beurre, attention. Mais l'huile plutôt en remplacement du beurre. D'accord ? Ça va être plutôt pour la cuisson, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Tout simplement parce que pour les huiles crues, on va préférer les huiles riches en oméga-3. D'accord ? Et les huiles riches en oméga-3, la principale que vous connaissez, c'est l'huile de colza. Les oméga-3, ils sont très protecteurs au niveau cardiovasculaire, mais aussi au niveau neuronal. Et donc, par contre, ils ont une problématique, c'est qu'ils sont sensibles à la chaleur. Donc on ne peut pas les cuire. Quand on les cuit, ils sont dégradés. Donc du coup, on va garder tout l'usage cru pour les huiles riches en oméga-3, comme le colza, l'huile de noix aussi, c'est très bien. D'accord, vous pouvez varier. Et du coup, ben, comme on utilise le cru pour les oméga-3, ben, le cuit, ils sont sensibles à la chaleur, on va plutôt utiliser l'olive. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser de l'huile d'olive en cru. Mais en gros, vous comprenez, si vous utilisez l'huile d'olive pour le cru, les oméga-3, on ne peut plus les utiliser. Parce qu'après, ça ne servira à rien, ce sera cuit, et ce sera dégradé. Donc ça, c'est le principal point. Dans tous les cas, il faut essayer de varier. D'accord, de varier les huiles. Si vous tournez entre l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de tournesol un petit peu, dans ce cas-là, vous apportez une variété et vous êtes sûr, à un moment donné, d'amener des oméga-3 dans votre assiette. Les recommandations, c'est à peu près une cuillère à soupe par jour, que ce soit dans l'assaisonnement ou pour la cuisson. Donc ça, c'est le premier point, c'est favoriser les huiles végétales plutôt que le beurre. Le beurre, quand vous en consommez, bah, plutôt le consommer cru, d'accord, sur un petit bout de pain, plutôt que de le faire cuire ou brûler, entre guillemets, dans la poêle. Deuxième élément du régime orienté méditerranéen, c'est les fameux 5 fruits et légumes par jour. Ça, vous l'avez tous entendu, ce message, normalement. Je pense que c'est le meilleur message marketing sur l'alimentation de ces dernières années. Donc, pourquoi 5 fruits et légumes par jour? Donc, pour vous apporter des fibres, encore une fois, des vitamines, des antioxydants. D'accord? Les antioxydants, ils ont pour but de protéger vos cellules contre les attaques, ce qu'on appelle les radicaux libres, donc des petits éléments qui viennent un petit peu dégrader et faire vieillir nos cellules. Donc plutôt cru, encore une fois, donc on a toujours notre première composante, hein, le végétal cru, c'est pour ça qu'on le veut. Donc nos 5 fruits et légumes par jour. Alors quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est quoi? C'est pas 5 myrtilles, c'est pas 5 groseilles, hein. Non. C'est 5 portions de 80 à 100 grammes. Et une portion de 80 à 100 grammes, ça fait à peu près la taille du poing. D'accord? C'est une petite pomme, c'est 2 clémentines. D'accord? Quand on mange 2 clémentines, ça veut dire qu'on mange un fruit. D'accord. Là, encore une fois, l'idée, c'est de varier, hein, pas manger que des bananes, par exemple. Et on y arrive très vite, en fait, à nos 5 fruits et légumes par jour quand on a nos 5 composantes. D'accord. Quand on a nos crudités à midi, nos légumes à midi, nos crudités le soir, nos légumes le soir, ça fait déjà 4. D'accord. Éventuellement, un petit fruit au petit déjeuner ou en collation. Voilà. On y arrive très, très vite. Donc ça, c'était le deuxième élément. Donc premier élément, les huiles végétales. Deuxième élément, les 5 fruits et légumes par jour. Ensuite, on va recommander une fois par jour ce qu'on appelle une poignée de fruits oléagineux. Noix, noisettes, amandes, pistaches, noix de cajou, noix du Brésil, cacahuètes, etc. Alors, pas dans le rayon apéritif, hein, on est d'accord. Maintenant, vous retrouvez dans tous les magasins, là, vous avez des petites tirettes en vrac, là. Voilà, vous trouvez ça très facilement. Et donc, ça correspond, voilà, nature, non salée. C'est une dizaine, une quinzaine par jour. Alors, quand vous prenez votre petit goûter, par exemple, ça peut être bien aussi, pour remplacer le petit gâteau un peu trop sucré des fois, pour alterner. Quand vous avez un petit creux à un moment donné, plutôt que d'aller manger un petit morceau de fromage, un petit gâteau qui traîne, la petite poignée, ah, c'est bon, on est d'accord, c'est bon, mais normalement vous l'avez déjà eu soit le midi, soit le soir. Ça permet d'éviter les petits grignotages et surtout ça vous apporte des oméga-3. Donc voilà, une petite quinzaine, une petite poignée par jour, ça vous apporte des oméga-3, du calcium, des fibres, d'accord? Donc encore une fois, des choses qui vont vous protéger. Ensuite, dans les recommandations, on essaye toujours dans le but d'avoir le maximum de fibres et de vitamines et de minéraux, d'aller sur ce qu'on appelle les céréales les plus complètes possibles. D'accord ? Vous avez entendu, vous mangez du pain complet peut-être des fois, du pain de seigle, du pain en céréales. Voilà. On essaye d'éviter, dans la mesure du possible, tout ce qui est, je le dis ici dans une boulangerie, mais tout ce qui est pain blanc. D'accord ? Tout ce qui a été très raffiné. Tout simplement parce que plus c'est raffiné, plus on enlève l'écorce de la graine de céréales, d'accord ? Tout ce qui contient les fibres, les vitamines. Ensuite, on a les légumineuses. Donc les légumineuses, tout ce qui est lentilles, haricots rouges, pois chiches, pois cassés, fèves, etc. Dans les recommandations, c'est au moins une à deux fois par semaine. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très riche en fibres, il y a de la protéine végétale, ça va être protecteur. Ensuite, au niveau de la viande. Donc la viande, ça vous avez peut-être déjà entendu qu'on recommande d'éviter de manger trop de viande rouge. D'accord ? Alors quand on mange de la viande rouge, quand on le digère, en fait, on dégrade les molécules et on produit des acides, des toxines. On va privilégier tout ce qui est viande blanche, volaille, les œufs, le poisson, un petit peu de viande rouge dans la nuit, deux fois par semaine, on va dire. Alors, après, on a la charcuterie. Alors, tout ce qui est saucisse, charcuterie, ça pareil. De temps en temps pour le plaisir. Mais ça reste quelque chose de gras, ok ? Mais surtout, ça apporte beaucoup de mauvais gras. D'accord ? Ce qu'on appelle les acides gras saturés. D'accord ? Et qui vont être avoir plutôt tendance à être pro-inflammatoire. Et donc là, nous, quand on est atteint d'Alzheimer ou de Parkinson, on a des maladies qu'on appelle inflammatoires. Et donc du coup, ça ne va pas nous aider de manger des choses avec des acides gras saturés. Pareil pour les oméga-6. Donc tout ce qui va être viande blanche, on va essayer de favoriser ça par rapport à la viande rouge. Ensuite, tout ce qui est poisson. Dans les recommandations, c'est quand on a des pathologies, encore une fois, trois fois par semaine, donc deux fois du poisson gras, tout ce qui est saumon, thon, hareng, maquereau, sardine, et une fois du poisson maigre, le cabillaud par exemple. Tout ce qui va être fruits de mer, pareil, très bénéfique. Reste dans la même catégorie, donc pareil, il faut les favoriser. Alors pareil, on n'est pas obligé de tout le temps aller chercher du poisson frais. Utilisez les conserves, les sardines, le maquereau, sardines à l'huile, etc. Alors buvez pas l'huile, forcément. Mais voilà, c'est pratique, c'est rapide, ça vous apporte de la protéine, ça vous apporte des oméga-3, c'est bénéfique. Et c'est bon, toutes les variétés vont être différentes en termes d'apport en protéines. Dans les recommandations, retenez à peu près, parce que c'est des moyennes, après chacun est différent, on a tous des besoins différents, donc c'est difficile de dire vous, il vous faut tant, etc. Mais en moyenne, il vous faut l'équivalent à peu près de 150 grammes de viande, poisson, œuf par jour. 150 grammes, ça vous fait 3 œufs. Ça vous fait 3 tranches de jambon, ça fait 3 œufs. Dans la journée, d'accord ? Alors c'est l'équivalent, ça ne veut pas dire qu'il faut manger 3 œufs tous les jours. Hein. Non, non. C'est quand vous faites un steak, par exemple, dans la journée. Ben voilà, si votre steak fait 100 grammes le midi, ben le soir, il vous faudra un œuf. D'accord ? Si vous mangez un steak haché surgelé, par exemple, ça fait 100 grammes. Voilà. Le soir, il vous manque l'équivalent d'un œuf ou d'une tranche de jambon. Okay. Une petite boîte de sardines. D'autant plus quand on prend de l'âge, c'est très important l'apport en protéines. D'accord ? Parce que quand on prend de l'âge, on facilite ce qu'on appelle la destruction des protéines du muscle. D'accord ? Donc il faut l'entretenir. Il faut amener de la protéine. Parce que la protéine, on ne le stocke pas, on est obligé de l'apporter. C'est pour ça qu'on insiste sur la partie protéine animale. Même si bah, dans l'ère du temps, on est plutôt tendance à passer sur la protéine végétale. Mais pour la personne âgée, bah, on passe sur la protéine animale parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus qualitatif et c'est plus pratique. Ensuite, au niveau du produit laitier, on va recommander, quand on a des pathologies neuroévolutives, de se diriger vers tout ce qui va être fromage et yaourt de chèvre ou de brebis. Voilà. Tout simplement parce que ça contient un petit peu moins d'acides gras saturés, encore une fois, que le lait de vache. Et donc du coup, c'est un petit peu plus protecteur au niveau inflammatoire. Sur le lait, il y a les pros, il y a les anti. C'est très compliqué. Au niveau des études, il n'y a rien de vraiment concret. Donc nous, on est obligé de se fier aux recommandations toujours. Et les recommandations ne priment pas de supprimer le lait dans ce cas-là. On entend des ostéopathes aussi qui disent qu'il faut arrêter le lait parce que c'est pro-inflammatoire. Mais en fait, ils disent ça parce que dedans, il y a des protéines. Il y a une protéine qu'on appelle la caséine qui est pro-inflammatoire, encore une fois. Il y a des acides gras saturés qui sont pro-inflammatoires. Mais comme dans la viande, comme dans le fromage, etc. Donc ils ont un discours sur le lait qui pourrait être juste, mais qui n'est pas cohérent parce qu'ils n'interdisent pas le reste non plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Quand on est sur les recommandations à deux fois par jour, il n'y a pas de problème.
Parce que les acides gras saturés, on en trouve dans plein de gâteaux.
On en trouve partout. Après, il en faut un petit peu quand même. D'accord ? La problématique, c'est qu'il y en a dans tout. Et donc quand on cumule tout, là, on arrive sur des seuils qui sont un peu trop élevés. C'est pour ça que quand on a la possibilité, sachant qu'on en a déjà quelque part, on essaye de prendre une autre solution, comme les huiles végétales, par exemple. De toute façon, on va trouver de l'acide gras saturé dans les viandes, bah, cette viande-là, plutôt que la faire cuire au beurre, qui, elle aussi, contient de l'acide gras saturé. En bas, on va prendre de l'huile d'olive, qui en aura un petit peu moins. C'est à peu près pareil. Au niveau du calcium, c'est à peu près pareil, mais en plus, vous avez rajouté vos oléagineux, donc vous avez rajouté du calcium. Vous avez mangé des légumes de saison, les brocolis, les choux, ça contient du calcium. Vous mangez vos deux produits laitiers, du coup, il y a du calcium. On va parler de l'eau également, on détruit du calcium. Donc, il y aura du calcium. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut favoriser, d'accord, au niveau type régime méditerranéen. Et après, il y a ce qu'il faut limiter. D'accord, limiter pour le plaisir, c'est pas interdit. C'est tout ce qui va être sucre simple. D'accord, le sucre qu'on met dans le café, dans le thé, les gâteaux, les bonbons, toutes les choses comme ça. Le chocolat, si on aime vraiment ça, si on est sur du chocolat noir, tout à fait, on va privilégier bien évidemment le chocolat noir au chocolat au lait. Le chocolat au lait contient beaucoup plus de sucre que le chocolat noir. Le chocolat noir contient du magnésium, c'est important. Il contient des flavonoïdes aussi qui sont très protecteurs. Quand on aime le chocolat, un petit morceau de chocolat noir, ça fait pas de mal non plus. Alors, il y a des substituts pour le sucre, bien sûr. On peut utiliser tout ce qui est édulcorant déjà. Après, quand on prend du miel, de la confiture, etc., on est quand même sur du sucre. Pareil, le sirop d'agave, on est sur du sucre. Il y a un petit peu moins de sucre. On est sur 70% par rapport à, comprenez comme le miel, 70% de sucre plutôt que 100%. Mais ça reste du sucre. L'erreur qu'on fait souvent en disant je prends du miel, c'est que je peux en manger plus parce que c'est pas du sucre. Bah non. Si on prend 2 cuillères à café de miel, ça fera plus de sucre que si on prenait 1 seule cuillère à café de sucre. Il y a un pouvoir sucrant qui est supérieur, c'est-à-dire que quand on prend 1 cuillère à café de miel ou 1 cuillère à café de sucre, on a le même goût de sucre. Mais du coup, on a un peu moins de sucre dans le miel.
Et le sucre?
Ça reste du sucre. Le sucre, alors tout ce qui est sucre roux, tous les sucres, raffinés ou pas, ce sera du sucre 100% sucre. Miel, confiture, la confiture, il y a des différents degrés, mais en gros, c'est entre 50 et 80% de sucre. Le sirop d'agave, c'est pareil, c'est autour de 70%. Le sirop d'érable, c'est pareil. Ça sucre aussi. Mais si on arrive à se contenter d'une cuillère à café, au lieu de mettre dans son yaourt 1 cuillère à café de sucre, on met 1 cuillère à café de miel, eh ben c'est mieux, du point de vue. Par contre, si on met 2 cuillères à café de miel parce qu'on se dit qu'il y a moins de sucre dedans, ben non, finalement, on arrive au-delà de la cuillère à café de sucre. Ça, c'était pour le sucre. Après, encore une fois, c'est pas interdit, d'accord ? Ça doit rester pour le plaisir. Le vin rouge, on entend, faut boire un verre de vin, c'est protecteur, parce que dedans, en effet, il y a un flavonoïde spécifique, d'accord ? Mais qu'on va retrouver dans les légumes. Donc voilà, si vous mangez vos légumes, vous avez la même chose. Donc c'est pas une bonne excuse, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas interdit, ça doit rester pour le plaisir. Les recommandations officielles, c'est maximum 2 verres par jour, ce qui veut pas dire qu'il faut boire 2 verres par jour. C'est 2 jours sans boire dans la semaine. Ça fait 10 verres par semaine, ce qui veut pas dire non plus que si on n'a rien bu dans la semaine, le samedi soir, on boit nos 10 verres. Quand on parle de quantité de verre, on parle des quantités standards, en effet. Donc, c'est-à-dire un verre de vin, c'est 12 centilitres. Un verre de whisky, c'est les 4 centilitres. Un verre de bière, c'est 33 centilitres. Voilà. Donc, c'est la dose qu'on appelle la dose bar, qu'on sert dans les bars, en fait. Ouais. La dose qu'on sert dans les bars. C'est-à-dire quand ils servent un alcool fort, ça va être cette petite quantité. Quand c'est un verre de vin, c'est... Voilà. Après, encore une fois, ce que je vous dis là, ce sont des recommandations. Moi, je ne suis pas chez vous à regarder ce que vous faites. C'est des recommandations santé. Après, voilà, on est tous pareils. Hein. Moi aussi, je mange de la pizza, je mange de la raclette. Pas de problème. Voilà. Le but du jeu, c'est d'en être conscient, déjà. C'est de savoir, de le faire en toute conscience, hein, de ne pas faire des choses en se disant « mince, je ne savais pas, si j'avais su, j'aurais fait autrement ». Il faut savoir se faire plaisir, dans la limite du raisonnable, toujours, en essayant d'éviter les excès. Tous les alcools, c'est pareil. Il y a des petites variations, bien sûr, mais tout est pareil. Donc c'est le même effet en termes d'apport énergétique, apport calorique, ou en termes d'apport d'alcoolémie. On a parcouru à peu près tout, donc au niveau du bien manger, au niveau du régime méditerranéen. On a parlé des protéines aussi, hein, c'est important, donc ça faut garder en tête pour éviter ce qu'on appelle la dénutrition. Et puis il y a une autre variante qu'on traite quand on parle de nutrition. Donc nutrition, c'est alimentation et activité physique. Donc ça, c'est très important également, l'activité physique. Quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de sport. Là, moi, je fais l'activité physique parce que je bouge les bras, mais c'est très faible. On fait le ménage, on joue avec ses petits-enfants, on sort le chien, on monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, on va faire ses courses à pied au lieu d'être en voiture, etc. On fait du vélo quand on peut, ou même du sport carrément, d'accord ? Quand on va la séance de gym, etc. Les recommandations, encore une fois, c'est 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Activité physique modérée, c'est marcher d'un point A à un point B sans forcément s'arrêter et regarder les boutiques. C'est, je dois aller prendre mon bus là-bas, j'ai pas trop le temps de prendre mon temps, justement, et je marche. Est-ce que vous avez des questions ?
0%, c'était nocif.
Alors, ça dépend. Quand on parle de 0%, tous les produits 0%, light, allégé, etc., ou sans sucre, etc. Déjà, il faut faire attention de quoi on parle. Souvent, on voit les yaourts 0% de matière grasse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de matière grasse dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre. Après, quand on vient sur du 0%, on enlève des choses. Mais le consommateur, bah, lui, il veut un produit qui a du goût. Donc, ils vont rajouter des choses dedans pour que ce goût, on puisse le conserver ou trouver quelque chose qui soit quand même appétissant. Et donc, souvent, on va rajouter ce qu'on appelle des édulcorants. Donc là, on parle des substituts aussi, comme tout à l'heure, qu'on appelle les édulcorants. Hein. Quand vous mangez du candérel, là, c'est l'édulcorant au sucre. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous apporter de calories. Donc ça, c'est très bien. Les gens qui ont du diabète, c'est différent, on fera attention à ça. Donc ça ne va pas vous amener de calories, donc c'est un aliment santé. Par contre, bah, pareil, encore une fois, il y a des pour, il y a des contre. Il y a des études, on ne sait pas trop sur certains additifs encore, s'ils sont nocifs ou pas, on a les études qui sont en cours et c'est que 20 ans après, finalement, qu'on dit qu'il faut enlever le bisphénol A, par exemple, c'est un perturbateur endocrinien. Et peut-être que l'aspartame, au fur et à mesure du temps, ils vont se rendre compte que c'était nocif. Donc ça, on ne le sait pas. Et il y a le deuxième effet qui, en effet, est qu'on continue à habituer notre cerveau à aimer le sucre. Donc on s'appelle l'appétence pour le sucre, c'est-à-dire que notre cerveau, il nous envoie des signaux. Alors ce n'est pas une addiction totalement, hein, c'est un comportement plaisir finalement. Ça ressemble à des addictions, mais c'est un peu différent au niveau du fonctionnement cellulaire. Mais on peut l'associer à ça. Et donc du coup, on habitue notre cerveau, et il aime toujours du sucre, il aime toujours le sucre. Et donc quand on a faim, on va se diriger vers quelque chose qui est sucré. C'est ce qu'on appelle le sucre appelle le sucre. Si on a la possibilité de manger des choses qui sont non sucrées, de base, c'est mieux. Éventuellement, avec un édulcorant, il n'y a pas de calories, mais ça nous habitue quand même. Et sinon, quelque chose de standard. On est toujours dans le plaisir. C'est pas interdit le sucre, encore une fois. Il faut juste faire attention en limiter la quantité. Et des fois, pareil, sur le 0%, tant qu'on est dessus, un yaourt, 0%, ça n'a aucun intérêt. D'accord ? Dans un yaourt, il y a 4,5% de matière grasse. Ah ok, c'est des acides gras saturés, c'est pas terrible. Mais 4,5% de matière grasse, c'est pas là-dessus qu'on va se battre. Quand on va se battre plutôt sur la grosse tartine de beurre, sur les produits frits, les produits panés, d'accord ? Donc ça sert à rien. Sur le fromage blanc, c'est différent. Le fromage blanc, on monte à 20% ou même au-delà des fois. Donc là, ça peut être intéressant de venir chercher des produits type 0%, 3%, 7%, ça existe aussi, pour limiter un peu l'apport en graisse saturée. Mais bon, sur les yaourts, sauf pathologie, etc., encore une fois, spécifique type diabète, on fera attention. Sachant qu'il vous faut de la calorie. C'est important. Avec l'âge, on a de moins en moins d'appétit, c'est un phénomène naturel. Donc c'est plus difficile de manger des gros repas comme on mangeait avant. D'accord ? On va picorer un petit peu plus longtemps toute la journée. C'est un fonctionnement normal. Du coup, si en plus, quand vous mangez des choses qui ne vous apportent pas d'énergie, à la fin, vous allez être fatigué. C'est un petit peu dommage, parce que vous ne pourrez plus faire vos activités, vous ne pourrez plus sortir voir vos copains, vos copines. Et puis voilà, après, c'est un cercle. Donc il faut garder un peu de plaisir en faisant attention. Mais garder du plaisir et essayer de manger quand même des choses qui vous donnent envie de manger. Très important.
Depuis que je vieillis, n'est-ce pas, je suis à 5 repas par jour, comme les bébés. Je prends mon petit déjeuner. Vers 10h, je prends une pomme. À midi, une fois un petit 4h. Alors souvent, je prends une pomme. Mes pommes, je suis couverte de pommiers. Il faut que je les liquide, quoi. Et puis le soir, ça fait presque 5.
C'est tout à fait normal. Vous avez un plus faible appétit. Donc c'est difficile d'amener toutes vos calories sur 3 repas. Donc on va fractionner, d'accord, ce qu'on appelle fractionner votre apport énergétique. Et donc du coup, on prend des repas. Après, le risque, et c'est là où il faut faire attention, c'est que nos 5 repas, les 2 repas du milieu qui ne sont pas des repas, ça devient du grignotage. Ça, il faut faire attention à ça, il faut que ce soit des choses réfléchies. Il faut que ce soit une collation vraiment que vous avez imaginée, quelque chose de sain entre guillemets, et pas juste ouvrir un petit paquet de gâteaux. Donc ça peut être notre petite poignée d'amandes là, dont on a parlé tout à l'heure, 10 heures par exemple. Ça peut être un fruit, même si on fait attention les fruits de ne pas les prendre tout seul. On essaye plutôt de les prendre dans le cadre du repas. Parce que quand on mange un ingrédient tout seul, on assimile tous les bienfaits de l'ingrédient, mais aussi tout ce qui est un peu moins bien. Dans le cadre du fruit, ça va être le sucre. D'accord ? Donc là, il va beaucoup plus facilement assimiler le sucre quand il va le manger tout seul. Donc on essaye plutôt de prendre un fruit à la fin d'un repas.
Au goûter, par exemple, prendre une clémentine, ou avant, quand c'était les pêches, ou autre, c'est ce que je prenais. Alors d'après vous, c'est bon ou mauvais ?
Alors, encore une fois, idéal de ne pas les prendre de manière seule, mais moi je préfère que vous mangiez un fruit à 4 heures qu'un paquet de gâteaux, d'accord ? On est d'accord. Il y a des choses mieux, comme les prendre dans le cadre du repas, mais il y a pire.
Moi je connais quelqu'un qui a des plats préparés uniquement, enfin qui ne mange que des plats préparés.
Après tout dépend du plat préparé. Si c'est du plat préparé type portage, où normalement il y a des... Voilà, c'est le plat industriel. Alors, le plat industriel, il a un avantage, c'est qu'il est pratique. D'accord ? Donc déjà, il faut compter là-dessus, il est là pour ça. Maintenant, la problématique, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans ? Souvent, c'est très salé. Même s'il faut dire, ça s'améliore. Les marques, elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas servir n'importe quoi non plus. C'est très salé, c'est souvent très gras. C'est souvent, parfois, on va dire, il y a un peu de sucre ajouté là où il ne devrait pas y en avoir pour donner du goût. C'est un conservateur aussi, le sucre. Les matières grasses qui sont utilisées ne sont pas forcément les meilleures. Donc tout ça fait que on n'est pas dans la chose la plus optimum pour l'alimentation. Après, encore une fois, ça permet de manger à certaines personnes qui ne peuvent pas cuisiner. Donc il vaut mieux manger un plat cuisiné que de se laisser mourir de faim.
Des fois, il faut lutter. Hein.
Après, on est tous pareils. Hein. On aime manger, c'est quelque chose de réconfortant, d'accord ? C'est normal, déjà il ne faut pas culpabiliser à ce niveau-là. Il faut savoir aussi une chose, c'est que depuis la nuit des temps, notre organisme, lui, tout ce qu'il veut, c'est survivre. Et pour survivre, il a besoin d'énergie, il a besoin de calories. Donc forcément, quand il y a des moments où on mange peut-être pas suffisamment, il y a des signaux qui se passent là, et qui nous disent, oula, il me faut de la calorie là. Et donc quand il nous faut de la calorie, on va pas aller ouvrir une boîte d'haricots verts. Hein, on va aller manger quelque chose de très riche en énergie, dans le minimum de quantité. Ça va être du fromage, avec du chocolat, du pain, etc. Même souvent, quand on a faim, c'est pas un fruit qu'on va prendre, hein, c'est vraiment un gâteau, voilà. Quelque chose qui nous apporte de l'énergie très rapidement, en petite quantité, mais voilà, de manière très dense. Et c'est un comportement totalement normal. Après, en effet, il faut lutter, parce que maintenant, ça participe à la lutte, ça, cette information-là. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que vous pouvez grignoter, mais qu'il faut quelque chose d'un peu plus sain. Vous savez qu'il vous faut, important, vos 3 repas par jour, on n'en a pas parlé. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Parfois, en plus, la collation de 10 heures, la collation de 4 heures. C'est important pour pouvoir vous apporter de l'énergie tout au long de la journée. D'accord ? On peut pas se contenter. Imaginons, on a besoin de 2000 calories. Ben, on pourrait très bien se dire, je mange mes 2000 calories que le midi, puis comme ça, c'est fait. Ben non, ça marche pas comme ça. D'accord ? Le corps, quand vous vous levez, il a une activité dans la matinée. D'accord ? Donc, il faut lui amener de l'énergie. C'est comme une voiture. Hein. Une voiture, on ne va pas la pousser le matin et puis lui mettre l'essence à midi, rouler après. Non. On met de l'essence pour pouvoir rouler tout le temps. Alors, ça, c'est ce qu'on a souvent entendu, manger, petit déjeuner comme un roi, manger comme un prince et dîner comme un pauvre. C'est pas totalement ça. C'est à peu près, pour simplifier les choses, un tiers, un tiers, un tiers. Dans l'imaginaire des gens, c'est plus simple, mais cette réflexion-là, elle a fait culpabiliser beaucoup de gens et fait faire beaucoup de comportements alimentaires le soir, notamment, où on mangeait qu'une soupe et au lit, quoi. Donc quand on mangeait qu'une soupe, quand on mettait de la pomme de terre, ça allait. Mais sinon, il n'y avait pas de féculents, il n'y avait pas de protéines de qualité, il n'y avait pas de produits laitiers. D'accord ? Donc on n'a pas nos 5 composants. Alors les protéines, on en a parlé tout à l'heure. On veut de la protéine de qualité à chaque repas. Qui ne veut pas dire qu'il faut manger de la viande midi et soir. D'accord ? Attention. Hein. La protéine de qualité, un petit peu technique, mais c'est ce qui va vous amener tous vos acides aminés. Donc c'est des petites briques de construction de votre corps. Et dans la viande, le poisson et l'œuf, on a tout le catalogue d'acides aminés disponibles. Tout est présent. Donc c'est pour ça qu'on dit que la protéine, souvent, on l'associe à de la viande. Et ces petites briques, là, ces petits acides aminés, on les retrouve aussi dans le monde végétal. Mais bon, c'est un petit peu plus complexe, elles ne sont pas présentes partout, donc il faut faire des associations, par exemple, comme les céréales et les légumineuses, quand on mangeait du riz et des lentilles. Quand on mange du riz et des lentilles, on reconstitue notre catalogue et on a tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas manger, on n'est pas obligé de manger de la viande midi et soir, parce que le soir, par exemple, on peut se contenter de protéines végétales. Mais il y a une petite réflexion à avoir. Donc c'est un peu plus complexe, il faut se renseigner un petit peu plus, il faut aller voir des spécialiste en nutrition pour vous guider là-dessus.
Les protéines végétales, vous dites les légumineuses.
Alors, les protéines végétales, alors vous pouvez aller soit sur de l'industriel, entre guillemets, avec tout ce qui est substitut, les steaks de soja, les steaks végétaux, etc. Il y a des additifs, il y a des choses un peu. Là. Soit vous faites ce qu'on appelle l'association céréales-légumineuses, ce qu'ils font dans des populations depuis la nuit des temps, quand ils mangent du riz et des lentilles, de la semoule avec des pois chiches, quand ils mangent des galettes de maïs avec des haricots rouges, d'accord ? Quand ils font ça, eh bien, c'est une association de protéines végétales de qualité.
Légumes en conserve sans un apport trop important de sel ou des choses comme ça.
Alors, dans les recommandations, encore une fois, 5 fruits et légumes par jour sous toutes leurs formes, que ce soit frais, en conserve ou surgelé. Donc ça, le but du jeu, c'est de manger des légumes, manger des légumes. Maintenant, sur les conserves, il faut faire attention, en effet. Il faut, dans la mesure du possible, dans tous les cas, les rincer. Donc, dans les conserves, il y a du jus de conservation, une saumure, d'accord, avec du sel. Après, il y a certains, par exemple, certains légumes qu'on peut facilement rincer, les champignons en conserve, on peut les rincer. Qu'est-ce qu'on peut rincer facilement? Les pois chiches, les salsifis, etc. Après, quand vous avez des lentilles préparées, on ne peut pas les rincer. D'accord? Donc voilà. Donc tout ce qui va être légumes bruts, en général, on peut les rincer, donc essayez de bien les rincer. Ne pas manger de légumes parce qu'on n'a pas le temps de les éplucher, c'est une mauvaise excuse, parce qu'on a en version surgelée, pareil, le surgelé. Vous avez des légumes bruts surgelés, du poireau, de la carotte, des champignons. Tout ce que vous voulez, très pratique. Ça, normalement, meilleur. Après, parce que, encore une fois, dans la conserve, tous les nutriments vont, enfin, une grosse partie des nutriments vont être dissous dans le jus de conservation, donc on le perd. Quand c'est surgelé, en général, c'est cueilli, surgelé dans l'heure, pratiquement, donc ça conserve encore les choses. Mais, encore une fois, il faut faire attention, il faut savoir que nos vitamines, nos minéraux, ils sont sensibles à la chaleur. Donc, dans tous les cas, quand vous allez cuire vos légumes surgelés, ou quand vous allez les laisser décongeler, qui vont prendre de l'eau, toutes les vitamines vont partir avec. Dans tous les cas, on perd.
Et les produits non bio, donc insecticides, pesticides.
Sur le bio. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé, en général, j'en parle quand je parle des choses complètes. Dans les recommandations, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes sur des aliments complets, du pain complet, des pâtes complètes, du blé complet, etc., essayez de préférer des produits bio. Parce qu'en fait, donc, quand on est sur des céréales complètes, on a toute l'enveloppe de la graine, par exemple, et les pesticides, ils restent plutôt en surface. D'accord ? Alors quand c'est raffiné, il y en a un petit peu moins. Sur la question de savoir est-ce que c'était bon pour les intestins, tout ce qui est fibre, alors quand, si jamais là, vous sortez d'ici, vous n'avez jamais mangé de légumes ou de légumineuses, et que vous vous dites « je vais manger plein de fibres maintenant », vous pouvez avoir des soucis. Ouais, ça va faire l'effet. D'accord ? Donc, il faut y aller progressivement quand on n'est pas habitué à manger beaucoup de fibres. Au niveau de la digestion, il y a certains légumes, en effet, qui sont un peu plus difficiles à digérer pour tout le monde, pour certaines personnes en particulier, parce qu'elles sont plus ou moins sensibles. Donc, ça encore, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais, dans une alimentation variée, équilibrée, en quantité raisonnable, normalement, avec l'habitude du temps, ça ne va pas poser un souci de digestion particulier, sauf à avoir une sensibilité spéciale. Est-ce qu'il faut tout éplucher ? Il y a des légumes qui se mangent avec la peau. D'accord ? Il y a certains légumes qui se mangent avec la peau. Les pommes de terre, enfin, c'est pas un légume, la pomme de terre, c'est un fécond, mais vous pouvez le manger avec la peau. D'accord ? Les courgettes, vous pouvez manger avec la peau. Les aubergines, vous pouvez manger avec la peau, etc. Toutes les vitamines sont principalement dans les peaux. Après, encore une fois, si vous mangez des produits avec la peau, soit bah, c'est bio, c'est mieux, soit elles ont bien été lavées. Et bien lavées, c'est pas juste passer 10 secondes sous l'eau, c'est au moins 20 minutes dans de l'eau avec du vinaigre ou vous mettez de la javel ou du chlore. Ou alors vous les faites blanchir. Sur l'eau, du coup, donc, si on prend du début, déjà dans les recommandations, c'est 1,5 litre par jour, hors activité physique et hors grosse chaleur. 1,5 litre, donc c'est une bouteille. L'eau du bassin rennais est très bonne. Vous pouvez la boire, il n'y a pas de problème. Après, il y a d'autres types d'eau, les eaux en bouteille notamment. Eau plate, eau gazeuse, eau de source, eau minérale. Elles ont tous des différences, des avantages, des inconvénients. Enfin, des inconvénients, pas trop, mais plutôt des avantages. Tout ce qui va être eau minérale, ça va être riche en certains minéraux, notamment le magnésium ou le calcium. D'accord ? Quelqu'un qui va avoir des problématiques de constipation va pouvoir s'orienter sur des eaux riches en magnésium type épars. Si vous êtes en recherche de calcium, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez aller sur des eaux type Contrex ou Courmayeur. D'accord ? Donc ça, c'est des eaux qui vont être très riches en calcium. On trouve les mêmes versions en gazeuse aussi. Donc là, ça va vous apporter des sels minéraux également, donc c'est très intéressant, des bicarbonates. Et après, sur la problématique du plastique, donc ça, bah, c'est pareil. Hein. Le plastique a la propriété de diffuser. Préférez les bouteilles en verre, l'eau du robinet, les gourdes, maintenant ils font des gourdes en métal, en verre, etc. Donc vous pouvez très bien trouver ce qu'il faut. Un truc que j'ai pas dit, c'est voilà, préférez tout ce qui est les huiles extra vierges, première pression à froid, d'accord ? Donc là, voilà, on en trouve de plus en plus, beaucoup moins cher. Et au moins, ils n'ont pas rajouté de produits, en fait, dans le raffinage de l'huile pour arriver au produit final. Donc là, c'est brut. L'huile de lin, donc riche en oméga 3, donc très protecteur au niveau cardiovasculaire. Ça me permet de rebondir, c'est très bien, sur des produits spécifiques. Je ne sais pas si vous connaissez la filière bleu-blanc-cœur. Voilà. Donc, on en trouve beaucoup pour les œufs, mais il y en a pour d'autres produits. La viande aussi, on en trouve. En gros, c'est toute une filière du début, enfin, de l'élevage jusqu'à la production qui permet de garantir une protection cardiovasculaire principalement, notamment par l'enrichissement en oméga 3 au travers de l'alimentation des animaux, notamment pour les poules qui sont nourries aux graines de lin. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Donc, et on retrouve un petit peu plus d'oméga 3 dans l'œuf au final, sachant que ben, la poule on a consommé un peu plus.
Qu'aidant, j'ai une problème d'expérience pour des gens qui ont des maladies du cerveau ou d'autres maladies, donc qui n'ont pas faim, ou alors qui ne veulent pas se faire commander. J'ai vu ma mère qui cuisinait des bons petits plats pour papa et une petite à la poubelle. J'ai eu plusieurs expériences quand on ne force pas la personne, qu'on met tout sur la table, plein de choses, et qu'elle choisit elle-même. Et là, elle mange à peu près normalement. Et on ne la force pas, et elle mange vraiment, peut-être pas tous, mais l'expérience que j'ai eue, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné.
C'est des choses qu'on voit beaucoup dans certains établissements également. Pour ça, voilà, que ce soit une démarche volontaire. Il y a ce qu'on appelle aussi le manger-main. Alors le manger-main, on l'a développé beaucoup pour les gens qui avaient des problématiques de Parkinson, par exemple, pour manger avec la fourchette. Mais pareil, c'est du manger-main. Pour des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer en structure, et ben, elles vont avoir des plateaux de petites bouchées comme les cannelés, par exemple, en version sucrée, qui vont être dans les couloirs. Et quand elles se déplacent, ben voilà, elles peuvent manger facilement. À domicile, donc vous avez cette technique-là. Après, c'est toujours difficile quand on est aidant ben, face à une personne selon ben, son caractère, sa façon de faire. C'est pas toujours simple. Donc là, quand on est face à une personne qui n'a pas envie de s'alimenter, donc le but du jeu, ça va être de lui apporter le maximum de choses la fois où il mange pas, la fois où il va manger. D'accord ? Et ça, c'est compliqué. Donc là, on va pouvoir s'orienter éventuellement vers tout ce qu'on appelle les compléments nutritionnels oraux. Les CNO, les petites bouteilles de Delical, peut-être, que vous faites prescrire. Les petites crèmes enrichies, des choses comme ça. Des fois, il vaut mieux avoir du sucre que se laisser mourir de faim. Les bouteilles de type Delical, les petites bouteilles de compléments nutritionnels oraux qu'on donne, par exemple, aux personnes âgées en structure ou qui ont du mal à s'alimenter. C'est très énergétique, très enrichi en protéines, en petit volume. Et quand on est aidant, on culpabilise, hein, même quand on est parent pour ses enfants, c'est la même chose. Hein, on veut les faire manger, est-ce qu'on ne veut pas qu'ils aient de l'entrevide avant de se coucher, etc. Donc c'est le même principe. Après, il faut réussir aussi en tant qu'aidant, ben, à accepter la situation du fait que là, maintenant, ça ne passe pas, que peut-être différemment tout à l'heure ou demain, ça sera mieux. Voilà. Alors, si on mange trop de sucre, après, quand on parle de sucre, on va parler ici de sucre rapide, d'accord ? Enfin, ce qu'on appelait avant les sucres rapides, d'accord, c'est les sucres simples. Donc le sucre blanc, voilà, le sucre, voilà, la dosette. Qu'est-ce qui va arriver ? Quand vous mangez du sucre, vous augmentez votre glycémie instantanément. C'est-à-dire que le taux de sucre que vous avez dans le sang. Donc votre sucre, il est ingéré, il passe dans la barrière intestinale, il se retrouve dans le sang. Le corps, c'est une histoire d'équilibre. S'il y a trop d'un élément quelque part, il va chercher à réguler pour avoir la normale, pour avoir le taux normal. Donc quand on a trop de sucre dans le sang, le but du jeu, le sucre, c'est le carburant de nos cellules. Donc nos cellules, elles vont venir le capter, d'accord, pour se fournir en énergie. La problématique, c'est si on a trop, eh ben, elles ne vont pas pouvoir tout capter. Donc ça va rester dans le sang. Quand ça reste dans le sang, on peut faire ce qu'on appelle des hyperglycémies, d'accord. Et à long terme, on fait travailler le pancréas pour libérer de l'insuline de manière naturelle, pour que nos cellules puissent capter ce sucre, pardon, dans le sang. Et donc à force... Tant qu'il y a du sucre dans le sang, à force, on fait travailler le pancréas. Le pancréas, il génère de l'insuline et on le fatigue au fur et à mesure. Donc ça, c'est un premier phénomène. Il y a un deuxième phénomène qui est ce qu'on appelle la résistance des cellules. C'est-à-dire que les cellules, à force de voir de l'insuline arriver, elles se disent « Ouais, c'est bon, j'en ai marre de l'insuline, là. Hop, je l'empêche de venir parce que moi, j'en peux plus de capter du sucre, là. » Donc voilà, donc on va développer une résistance à l'insuline. Donc du coup, ça va être un cercle vicieux. C'est-à-dire plus il y aura d'insuline, plus on va résister. Moins il y aura de sucre qui va rentrer dans les cellules, et plus le sucre va rester dans le sang. Au fur et à mesure, notre sucre s'installe, il reste dans le sang, on n'arrive plus à réguler la glycémie, on crée des hyperglycémies, on peut développer du diabète, d'accord ? Avec le temps. Et le diabète, avec les risques qu'il y a derrière, des complications cardiovasculaires, des comas diabétiques, je vous passe des choses comme ça, hein, des problématiques au niveau sensoriel, au niveau des extrémités, des doigts, des pieds, au niveau rétinien. Donc ça, c'est le risque. Donc c'est important, régulièrement, de faire des prises de sang, de surveiller votre glycémie. Votre médecin vous a peut-être parlé de ça déjà, pour vérifier tout ça.
Il y avait une émission sur Arte qui parlait des progressions des médecins allemands sur la maladie d'Alzheimer et qui avait remarqué que les premiers signes apparaissaient dans les intestins. Et qu'en consommant de l'huile de coco, ça permettait de retarder l'apparition des signes de la maladie.
Alors moi, j'ai pas ces études-là. Après, que ça arrive au niveau de l'intestin, que ce soit détecté au niveau de l'intestin, c'est un peu normal. Enfin, normal, ouais. Savoir que c'est notre intestin, c'est le principal centre de système immunitaire. D'accord? Donc, dès qu'il y aura une attaque, une agression externe, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau du microbiote. D'accord? Donc, c'est toutes les bactéries que vous avez dans l'intestin. Et donc, toutes ces bactéries-là, elles participent à développer des choses, des toxines, des luttes contre les virus extérieurs. Après, sur l'huile de coco, je n'ai pas cette information-là en particulier. Alors, les margarines, voilà, tout ce qui va être enrichi en oméga-3, phytostérol, etc., donc très intéressant au niveau cardiovasculaire. Après, il faut faire attention à ce que vous achetez en termes de margarine. Ils peuvent rajouter derrière, ça peut être hydrogéné, d'accord ? Donc, ils ont subi un traitement industriel qui fait que c'est un petit peu moins bien. Donc, il faut toujours prendre des margarines végétales, d'accord ? Faites attention qu'il n'y ait pas d'huile de palme dedans, mais normalement, ils n'en mettent plus trop. Tout ce qui va être enrichi, c'est des produits santé, on va dire, qui sont quand même des apports intéressants. La question de à partir de quel âge je vous embêterai plus avec l'alimentation. À partir de quand vous pouvez manger ce que vous voulez. Dans les recommandations, pareil, au niveau diététique, la personne âgée, quand elle n'a pas de pathologie, on la laisse tranquille. À partir de 60 ans, nous, en diététique, 60-65 ans, on n'embête plus les personnes âgées, sauf avoir des problématiques de poids, de santé, etc., bien sûr. D'accord ? Donc quand il n'y a pas de soucis, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup.
En tout cas, merci à vous pour les questions.
J'ai rien compris.
À bientôt pour d'autres bistrots mémoire rennais sonores.